Et donc on va redémarrer avec la question de Margot.
Voilà, donc en fait on s'est quitté en parlant de la norme, puis du coup moi je réfléchissais à ma propre pratique, puis je travaille dans un IMS en l'occurrence, puis je me suis rendu compte que j'avais personnellement un rapport assez ambigu à la norme, parce que d'une part je me défends de vouloir faire correspondre la personne âgée à ce que la société attend d'une personne âgée, et d'autre part quand je discute avec une personne âgée du coup qui a des normes qui ne sont pas les mêmes que les miennes, pour créer du lien, je vais admettre que sa norme, donc par exemple, là on a parlé de féminisme avec les résidents, pour certaines résidentes, leur norme à elles, c'était que la femme devait être soumise à son mari, et du coup, même si c'est pas quelque chose avec lequel je suis d'accord, je vais quand même entrer en discussion avec elle et faire un effort pour comprendre sa norme. Et du coup, moi je me posais la question, en tant que travailleurs sociaux, on a finalement aussi accepté, nous, d'être un maillon de cette chaîne normative. Et puis, est-ce que d'admettre que certaines normes sont plus acceptables ou défendables que d'autres, c'est pas finalement créer une nouvelle norme qui est propre qu'à nous-mêmes?
Je vais peut-être laisser Bastien et Simon réfléchir à la réponse. Et dans l'attente de leur réflexion, peut-être j'ai envie de revenir sur cette première partie de matinée. Il y a en tout cas une chose à côté de laquelle on ne peut pas passer. Soit si on est à côté de Simon et de Bastien ou en face, c'est qu'on est intranquille avec Michel Foucault. C'est pas une pensée qui nous laisse indemne, et j'ai envie de dire qu'on sent dans votre ethos même, à vous deux, dans le mien aussi évidemment, comment non pas seulement le doute, mais une forme de trouble, ou je dirais me justifierait s'il le fallait, d'intranquillité est au travail. Et ceci me permet de préciser, bien que mon cher ami Jacques m'a dit attention à la jouissance du doute à l'extrême, on va pas faire ça, on est d'accord, on va pas se morfondre d'une forme dépressive en creux du doute, on en sort tout de suite, hein, rassurez-vous. Mais Foucault, lire Foucault, c'est évidemment être confronté à la nécessité de se déplacer, de penser autrement. Si ça ne produit pas ça, bon, peut-être gardons ça pour des discussions mondaines, il paraît que c'est très à la mode. D'autres jours, je participe à un truc à la Haye, etc., à Genève. C'est à la mode de parler de Foucault un peu partout. Et il faut vraiment, enfin, il faut, c'est déjà une injonction paradoxale, mais lire Foucault, ça conduit à un déplacement, à une déviation, à une forme d'écartement de soi, je dirais immanquablement. Donc, moi je suis assez sensible à votre, je ne veux pas dire intérieur, parce que ce serait déjà trop loin de la pensée de Michel Foucault, mais à votre ethos. C'est-à-dire, on sent bien que ce qu'on a essayé de faire ce matin, on sent que le sol se dérobe, c'est désagréable. On prend quelque chose ici déjà et nous échappe, donc on a envie de le prendre ailleurs, et on voit bien, sans jugement aucun, les lieux communs que l'on convoque assez facilement pour reprendre pied dans la réalité. Là où Foucault m'aide, c'est de déplacer des idées compliquées vers une philosophie pratique. C'est pas le projet de Michel Foucault au départ. Mais moi ça m'aide d'essayer de faire ça, c'est en quoi poser des questions de manière philosophique, les garder tendues dans le champ de la philosophie permet une influence réelle sur ma pratique et sur mon implication. Ça c'est vraiment l'enjeu. Et dans le fond, même si je résiste, il n'y a pas la question de la norme chez Foucault, il n'y a pas la norme. D'ailleurs, les mots et les choses, en allemand, le titre est traduit « Die Ordnung der Dinge ». C'est « Die Ordnung », c'est l'ordre, l'ordre. Et trop souvent, il me semble qu'on place la question de la norme, dans sa sémantique même, comme une évidence. C'est la question des ordres, chez Michel Foucault. C'est les ordres qui sont producteurs de normes. Et c'est pas une norme, c'est pas la norme, c'est des normes. Il y a de la norme, il y a de l'ordre, des ordres. Et c'est là qu'on est un peu embêté, parce que Dès lors, ce faisant, on est obligé d'essayer, avec les moyens qu'on a, toujours insatisfaisants, limités, de saisir ces petits glissements, plus ou moins grands, des fois micro-glissements, lorsque quelque chose se déplace dans l'horizon des pratiques, la réalité, ça se déplace, ça bouge, et c'est bien ce déplacement, le plus souvent clair-obscur, entre chien et loup, qui est intéressant avec Michel Foucault. Et comment, quand ça se déplace, quand la norme bouge, bon, alors, madame en MS qui a un propos sur le rapport homme-femme, eh bien, comment ça déplace ce rapport-là chez nous, en dehors d'une idée préfabriquée du féminisme, et comment ça va effectivement l'influencer, elle. C'est dans ce rapport-là que c'est intéressant. Et par ailleurs, dans le travail social, on ne parle plus de rapport de pouvoir. C'est pas vrai. On parle de régulation. C'est beaucoup plus propre. C'est beaucoup plus sympathique. Vous voyez que Michel Foucault, c'est un rapport de pouvoir. C'est même pas une relation. Je ne sais pas comment Foucault prendrait le terme Tischer, la systémique du lien. Parce que le lien serait comme le pouvoir et l'attraction terrestre, il y en aurait partout. Donc on serait constamment, il s'agirait juste de le saisir de manière professionnelle et éclairée. Mais ça veut dire quoi ? Avec Foucault, c'est des rapports. Des rapports de pouvoir, c'est des rapports d'affect, là, il est très spinoziste. Ça veut dire qu'il y a des manières d'affecter l'autre qui augmentent la puissance d'agir. Et puis il y a des manières d'affecter l'autre qui la diminuent. C'est des passions tristes chez Spinoza. Donc c'est là que Foucault nous invite à reprendre souffle et en même temps à retrousser les manches. Donc évidemment, il faut le lire, le relire, le mâcher, le remâcher. Donc c'est ça, c'est comment est-ce qu'on consent ensemble, collectivement c'est toujours un peu mieux, à saisir ces déplacements par rapport à des évidences, des concepts, des pratiques, des manières de faire, qui, à notre corps défendant, se déplacent, elles se meuvent. Et peut-être ça aussi la dimension politique de Michel Foucault. Comment est-ce qu'on rend compte, on fait part aux politiques que ce qu'on prévoit ne se passe jamais comme ça.
Ça s'arrête là, comme ça.
Je peux continuer, mais je préfère que...
Non. Pour faire la transition, c'est vrai que cette histoire du lien, moi aussi j'ai du mal à la définir. Quand j'essaie de m'expliquer ce que peut être ce lien, effectivement, j'arrive pas à quelque chose de plus précis que une sorte d'empilement de rapports. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on rencontre quelqu'un, on a une conversation, il se joue quelque chose, on a une relation, un rapport, puis on revoit cette personne, puis ainsi de suite, puis cette construction du lien, elle est là, dans peut-être des jeux de pouvoir, des jeux de rapports qui changent, qui évoluent, et c'est cette évolution, cet empilement, cet historique qui va créer le lien, puis donc si c'est... et qui va créer l'unicité de la singularité d'un lien. Mais c'est très personnel, hein, je m'appuie sur qu'un auteur connu. Voilà. Et après, pour cette histoire de ta question, Margot, sur les normes, j'en reviens aussi à ce qu'on disait sur les travailleurs sociaux comme acteurs du changement. Puis là encore, c'est... Les normes s'empilent et on en revient encore une fois aussi à une vision de la famille. Elle gravite un peu toujours là quand même aussi. Finalement cette famille, les rapports au sein de la famille et cette évolution au fil du temps qui se nourrit aussi de ce qui se passe en dehors de la famille, elle évolue et j'arrive pas moi à vraiment expliquer quelles sont les conditions du changement. Pourquoi une grand-mère, elle a voilà sa vision de ce que peut être le rapport de la femme par rapport à l'homme. Donc il y a une question de rapport de pouvoir entre différentes personnes. Et puis comment on est arrivé aujourd'hui à... Je ne sais pas si c'est massif, hein, je n'ai pas de sondage en tête sur... ça fait bien de dire qu'on est féministe. Enfin voilà, on se rend compte aussi dans les faits, dans les pratiques que beaucoup de gens qui prétendent être féministes, hommes comme femmes, le sont finalement moins que ce qu'ils sont, mais en tout cas, il y a un discours qui circule sur le féminisme aujourd'hui, et donc c'est intéressant dans un EMS de voir ça, c'est-à-dire toi, t'as l'âge que t'as, ces dames ou ces hommes ont l'âge qu'ils ont, et une confrontation, et on peut... Pour moi, la seule chose que j'arrive à en déduire de ce que tu dis, c'est on peut juste observer finalement cette évolution, cet empilement, et puis ces changements dans les rapports, ce changement dans les normes, si on peut appeler ça comme ça, des rapports de pouvoir entre individus. J'arrive pas à dire que c'est bien ou mal, parce que oui, aujourd'hui. Il y a une sorte de consensus sur le fait que effectivement c'est pas bien d'être soumise à son mari. Et à titre personnel, hein, je ne sortez pas les tomates. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça va. Sur mon éthique personnelle, ça va dans le bon sens. Toutefois, c'était complètement là encore normal il y a 50 ans. Et puis c'est pas pour ça que il a fallu. Que cette norme-là existe pour pouvoir passer aussi à quelque chose d'autre. Et puis ça ne veut pas dire que l'évolution d'après, ça ne sera pas encore autre chose, qu'on analysera peut-être comme un retour en arrière, je ne sais pas. Enfin, ce n'est pas très clair ce que je dis, mais ce que je veux juste dire, c'est que nous-mêmes, en tant qu'acteurs du changement, oui, c'est bien d'avoir un... Enfin, ça fait partie de ce qu'on nous demande de faire, d'avoir des débats, de faire évoluer les mentalités ou de proposer d'autres façons de voir les choses aux gens avec qui on travaille. Je crois que c'est souvent un truc qu'on nous demande de faire. Oui, mais monsieur, voilà, vous voyez les choses comme ça, moi je peux vous proposer de les voir comme ça. D'ailleurs, je pense même que c'est mieux pour vous de les voir comme ça. Mais c'est aussi une forme de discours assez... Il y a une forme de violence là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on laisse pas... C'est délibérément provocateur. Hein. Pourquoi est-ce qu'on laisse pas les gens dans leur merde, finalement, et se démerder avec leur vision pourrie de la société? Enfin, c'est volontairement très très provocateur, ou de leur... On a souvent affaire, là, je parle à des gens qui rejettent sur l'extérieur tous les problèmes qu'ils ont dans leur vie. Et le travers social a souvent tendance à ramener la personne interlocuteur en face à « Oui, mais là-dedans, vous, votre responsabilité, votre rôle, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Et si finalement, il avait raison. Si finalement, c'est nous qui sommes les relous qui voulons le ramener à une responsabilité, alors qu'en fait, il n'en a pas. Car effectivement, il n'est que le produit de différentes injonctions diverses et variées qui le rendent dingue et qui lui font faire des choses complètement contre son propre intérêt. Toute une série de questions, de réflexions qui me viennent en même temps, c'est pas du tout préparé. Donc n'hésitez pas à réagir, à me couper, à me dire de sortir de la salle. Enfin,
alors du coup, je vous présente toutes mes excuses, c'est que ma question était certainement mal formulée. Parce que du coup, moi, je voulais pas amener le féminisme dans le débat qu'on a maintenant, c'était pas du tout ça le but, c'était un exemple en fait, pour montrer que du coup, dans mes pratiques, il y a des moments où je suis vraiment extrêmement ambiguë. Autant d'une part, il y a certaines règles auxquelles j'obéis parce que je suis travailleuse sociale, contre lesquelles j'aurais envie de me rebeller, mais d'autre part, je vais être face à une personne qui obéit à ses propres règles sociales et je vais tout à fait comprendre qu'elle est des autres règles sociales. Et du coup, ma question, c'était qu'est-ce qui fait que moi, Margot, ou travailleuse sociale, je peux me dire il y a certaines règles sociales qui peuvent être défendables ou non, et du coup, est-ce que c'est pas créer de nouvelles règles sociales que d'admettre qu'il y en a qui sont plus défendables que d'autres? C'était ça ma question. Voilà, sans l'exemple du féminisme pour... voilà, désolée.
Allez-y.
En fait, je voulais juste revenir sur la... Enfin, du coup, je change un peu de sujet, mais on avait abordé ce matin le sujet de la violence. Vous en avez reparlé juste brièvement là maintenant. Par rapport à cette violence, ces violences, des violences, vous ne pensez pas que dans les rapports de pouvoir, enfin, la violence, les violences sont inhérentes à tout rapport de pouvoir?
Oui. après, la question, c'est, on en revient aussi à ce que, ce que disait Marc, et puis sur le, les mots, et comment on nomme les choses, et comment on les exprime, et on les reconnaît, c'est que on a trop souvent tendance à vouloir édulcorer ces rapports de violence qui s'exercent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Enfin, comme si on part de l'hypothèse que tous les rapports entre les individus et les dispositifs comportent leur part de violence, bon ben c'est OK. Après, c'est plutôt... Justement, là, on peut commencer à mesurer sur qu'est-ce qu'on accepte d'agir comme violence, qu'est-ce qu'on est OK de pouvoir... Et là, c'est une question éminemment aussi individuelle et politique. Et je pense que c'est là où on a à se positionner. Et j'en reviens à l'exemple tout à fait pertinent de mon cher confrère avant sur ce qu'il a pu agir avec, avec son patient.
À force de voir la violence partout, on risque de la banaliser, donc on est un peu mal à l'aise. Mais moi, je ne sais pas si rapport de pouvoir égale ou sous-entend immédiatement un rapport assez évident à la violence. Je ne dirais évidemment pas. Par contre, pour rester dans la compréhension que j'ai de Michel Foucault, des rapports d'assujettissement. Et c'est peut-être là, dans la contrainte d'être, de correspondre, d'être ce sujet-là, dans ce dispositif-ci, avec à l'arrière-plan ces agencements qui me contraignent, ça peut-être c'est violent. C'est à l'évidence violent, mais cette violence, si elle existe, elle va prendre corps dans le discours. Elle va prendre corps avec les mots, elle va prendre corps avec la reformulation, et elle est technique. C'est là que Foucault est quand même assez remarquable. C'est qu'au fond, les termes spécifiques à des disciplines, à des pratiques, sont des termes techniques. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment ils produisent des comportements, ils produisent des continuités. Enfin, ils ont l'ambition de les produire. Souvent, ce qui est intéressant, c'est les ruptures. Au contraire, parce que les ruptures dans un processus vont raconter comment ça résiste. Comment l'autre à qui le discours est adressé, pour son bien, etc., va résister. Donc, je dirais attention, je nous dis attention à la banalisation, cette forme un peu contemporaine où on peut lire tous abusés, tous, on ne dit plus aliénés, ça c'est un terme qui c'est pas bien, fait mauvais genre, mais disons voilà, aliénés, je pense que ça ne nous aide pas à penser, ça sidère un peu que. Tu laisses un peu de temps réfléchir.
Oui, de nouveau, il y a plein de... Moi, souvent, ce qui me vient au travail, au gré de la pratique, des techniques, des discours, c'est à quelle fin. On dit souvent, quand on rentre en formation, qu'on est une profession vouée à disparaître. Voilà, c'est quand même assez intéressant, je trouve. Après, là où je trouve que ça devient délicat et complexe en lien avec l'histoire des normes et d'une forme parfois de bien-pensance de comment les rapports entre les êtres humains devraient être régulés pour un peu sonner juste ou en tout cas suffisamment juste, c'est de savoir là-dedans que potentiellement et certainement moi je suis agent un bout d'une forme d'uniformisation en fait, d'une conceptualisation des normes. On va reprendre l'histoire de la famille. Quand je rencontre chaque famille est évidemment différente, avec des points de repère dans certains fonctionnements, certaines dynamiques en l'occurrence. Quand on rentre dans les dynamiques de maltraitance, il y a des choses qui se recoupent, qu'on retrouve, mais ça ne veut pas dire que chaque famille est identique. De là, après, dans l'intervention, à se dire qu'il faut donner du sens à la violence, à la maltraitance, de pourquoi on en est arrivé là pour que ça cesse. Voilà, ça c'est quand même un discours qu'on peut avoir, il faut que ça cesse. Pourquoi ? Parce que là, est tendu et sous-tendu avec ça, toute la question du développement de l'enfant quand même, qui est aussi en lien avec l'émergence des droits de l'enfant, et puis comme on discutait l'autre fois, de l'intérêt suprême. Donc il y a une 30-40aine d'années quand même, savoir le concept de l'enfance, quelque chose qui est quand même créé au 19e siècle. Avant, c'est une fois... il y a une mobilisation énergétique et qui peut travailler, ben, c'était un être d'une force comme une autre, en tout cas. Pour en revenir à réfléchir avec Foucault à ça, et de la question du rapport de pouvoir et de comment est-ce qu'on l'use ou est-ce qu'on l'utilise, à quelle fin. Est-ce que le fait de pas, enfin, d'être constamment dans je n'ai pas d'idéologie qui sous-tend ça, je n'ai pas de vision parfaite de la famille, je n'ai pas de. Enfin, c'est un peu ça, parfois, qui dérange. À quelle fin ? Il faudrait un peu laisser les gens faire un peu comme ils veulent, stopper quelque chose, arrêter quelque chose, tenter de faire comprendre quelque chose. Et là, souvent intervient certaines questions culturelles, et notamment dans les familles, ça intervient souvent. Ce qui met aussi en lumière une forme, parfois peut-être, de pensée très occidentale par rapport aux droits de l'enfant, aux normes familiales, parentales, enfin aux normes, à ce que devrait être un bon parent ou comment les pratiques. Parce que là aussi, ça génère en fait des pratiques parentales maintenant. Je vois, quand on parle de parentalité, on parle, c'est bien de ça dont il s'agit. Et là où il y a un glissement en termes de discours, pour moi, c'est que quand on génère une notion de parentalité et de capacité, de compétence parentale, ça voudrait dire que, quoi, qu'est-ce qui sous-tendrait à ça ? Il y aurait des formations, en fait, pour les parents. Enfin, est-ce qu'on devrait apprendre de manière institutionnelle à l'être parce que il y aurait une vision comme ça de la parentalité institutionnelle, évidemment, qui est construite avec tout un tas de domaines intellectuels et de recherche. Hein. Mais quand on est au milieu de ça, en tant que travailleur social ou de charnière ou de quelqu'un qui reçoit, qui redonne, qui est en même temps une caisse de résonance multiple, c'est parfois compliqué. C'est parfois compliqué de tenter de gérer un peu avec tout ça. Je me perds dans ce que je dis parce que voilà.
Je trouve qu'il y a deux événements pratiques qui ont été raconté ce matin, le premier que tu amènes ce matin, Bastien, avec ce patient qui revient dire en écrivant un mail, puis là, cette dame qui dit ah ben moi, mes normes, c'est pas les vôtres. Et que dans ce mouvement qui reviennent, j'ai l'impression que là, ils apparaissent un petit peu à vos yeux, un peu autrement. Comment ils apparaissaient avant, et que, c'est moi qui dis, hein, mais j'ai l'impression que ça vous a amené à une révision du rapport de pouvoir avec eux, de la représentation que vous en aviez, où tiens, tout d'un coup, ça bouge aussi, ça vous a aussi fait bouger chez vous. D'ailleurs, tu organises une réunion que tu ne pensais pas organiser. Je ne sais pas ce que tu as fait. Enfin, voilà. Je me dis, tiens, là, c'est. Il y a quelque chose qui bouge pour reprendre le terme qui t'a amené à.
Mais. Je vous coupe la parole, enfin, c'est ça. Ouais. Si on vous prend au mot, on pourrait donc dire que dans cette reformulation, quelque chose s'inaugure de différent. Penser autrement. J'ai à l'esprit un texte de Michel Foucault qui s'intitule « Le monde est un grand asile ».« Le monde est un grand asile », c'est un texte de 73, où Foucault interroge les pratiques médicales, médico-psychiatriques, qui consistent à prendre quelqu'un qui a un problème, de le sortir de chez lui et de l'amener dans un endroit où on va l'entendre, le comprendre, enfin en tout cas c'est le programme annoncé, l'interpréter. Et Foucault interroge ça et dit, mais pourquoi faut-il déloger les gens de là où ils sont? Et peut-être la violence serait déjà celle-ci, d'une forme de déportation, pour un terme fort, d'une forme de déplacement forcé, pour le bien, évidemment à l'arrière-plan il y a toute la,
toute l'ambition morale d'humaniser, de rendre plus intime, de protéger le lien, par le secret, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais tout cet arsenal, cette logique discursive pourrait être interrogée. Donc dès lors, si on vous prend au mot, David Furrer, dans le dialogue avec nous, on dirait, bon, bah, alors ce monsieur, il écrit un mail, d'où est-ce qu'il l'écrit? Ne vaudrait-il pas repartir de là où il est? Et que l'Iboréal se déplace au domicile, enfin je sais pas où, dans un endroit où le pouvoir, j'aime pas ce mot, le pouvoir d'agir, l'empowerment comme on dit aujourd'hui, se redéploie. Donc ça serait une question foucaldienne, donc, de revenir ou de consentir dans le déplacement même à aller là où les gens sont. Ça marche pas comme ça, hein. C'est pas si simple que ça. Donc,
Non, mais plus modestement, peut-être, il y a un événement où là, ces gens apparaissent comme ils n'avaient pas apparu jusque-là, et ça produit quelque chose d'assez inattendu. Une réunion extraordinaire, une relecture, ouais, de comment on présente un signalement. C'est pas des petites questions, et je me dis, voilà, c'est... Je ne sais pas si.
Oui, alors après.
Le fait que tu es su aussi en faire quelque chose, parce que tu aurais pu dire. Il y aurait eu d'autres manières de traiter le mail, hein, le prendre en faute, je ne sais pas. Hein.
Après, ce sera la question, et là, je n'ai pas de recul pour vous dire le deuxième épisode, en fait, suite à ça, ce qui va être fait la semaine prochaine, apparemment. À quelle fin cette réunion, hein, ben là, je me pose la question. Je me dis quoi? Est-ce que là, on va se recoller, se cacher derrière un modèle d'intervention avec une justification légale de protection de l'enfance sur le fait. Et en même temps, comment est-ce qu'on va pouvoir laisser aussi cet homme, ce père, s'exprimer aussi de ces injonctions à un bout quand même, qui ont été formulées par d'autres personnes, et du coup qui ont porté... Là, peut-être, c'est intéressant de... C'est vrai, je finis jamais mes phrases, vous avez raison. C'est peut-être important de parler peut-être de responsabilité par rapport à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça vient agiter chez nous, qu'est-ce que ça vient mobiliser chez nous avec justement l'idée d'une conscience parfois trop forte, d'un rapport de pouvoir au moment même où je fais la lecture du signalement à mon patient, je ne me rends pas compte de ça. Alors que c'est prémédité, c'est là où c'est intéressant. C'est après, je me dis, aïe, mais après avec sa mobilisation à lui, là où il revient vers moi, en me disant non, ça va pas, ça peut pas se passer comme ça. Alors que ça s'est passé comme ça. C'est là aussi où après, comment est-ce qu'on fait avec ça, on fait avec... ouais.
Mais... peut-être pour faire écho à ce que tu dis, Michel Foucault avait inauguré avec d'autres des groupes d'intervention en prison, c'est-à-dire le milieu carcéral était un milieu à l'époque, dans les années 70-70, assez fermé, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de télévision évidemment dans les murs. Et ce qu'a produit ce groupe, qui était un groupe interdisciplinaire, qui donnait la parole à des praticiens du champ carcéral, de s'exprimer, c'est qu'au fond, l'information, il y a une porosité entre le dispositif carcéral et le dispositif social beaucoup plus large. Et ça, c'était un des effets quand même assez fondateurs qui me paraît évident aujourd'hui, mais il n'y avait pas de journaux. Et donc, après, non seulement il y avait des journaux, il y avait la presse quotidienne, mais il y avait aussi la possibilité pour les détenus de s'exprimer, de raconter comment c'était à l'intérieur. Ce qui était un immense changement. Ça n'a pas changé la prison, hein. Et donc, cette porosité, elle est importante. Et peut-être, effectivement, pour revenir à la question du savoir-pouvoir, ce serait... Quelle porosité le dispositif des Boréales, mais tous les dispositifs,
peuvent s'autoriser, il ne faut pas non plus tirer de balle dans le pied, face à l'inceste, face à l'abus sexuel, il n'y a pas, de discussion, hein, ça n'est pas de justifier ça. Mais quelle porosité, quels passages sont possibles où la connaissance qu'ont ces gens de leur intimité, de leur fonctionnement, de leur vie, peut passer autrement comme un discours adapté ou des demi-vérités. Ça, ça serait une question intéressante. Donc, ça, c'est petit A. Petit B, pour revenir à ce que Jacques disait avant de la métisse, là où Foucault s'est arrêté, mais je ne pense pas que ça l'aurait intéressé, c'est qu'effectivement, on discute toujours dans l'après-coup d'une reprise mentalisée d'une pratique. On fait une narration après coup de ce qu'on a fait, et puis ce faisant, on sélectionne, on représuppose dessus l'expérience, on rend compte d'une expérience. Il serait plus intéressant d'avoir sous les yeux l'activité réelle, ça veut dire d'avoir filmé, d'avoir une prise de la réalité de l'action pour voir ce qu'on a sous les yeux, sachant que la chose la plus difficile à faire, c'est de regarder, de voir ce qu'on a sous les yeux, disait Wittgenstein. Donc, mais bon, voilà. Par contre, une chose plus compliquée que le son. Mais donc, si on avait un film de l'activité, je trouve que dans le travail social, on ne profite pas assez de ça, eh bien, on pourrait certainement, c'est une idée forte, on pourrait certainement voir comment, dans le mouvement même, dans l'intuition du geste, dans le geste, eh bien, on résiste, nous aussi, au dispositif dans lequel on est, notre geste, notre corps propre raconterait une autre histoire que celle d'appliquer, de jouer un rôle, d'être à disposition. Il y aurait des choses très intéressantes. Là, Foucault n'a pas été là, donc il y aurait cette métisse dont tu parles, il y aurait un bout, je dirais, d'espoir, parce que je sens bien la tonalité un peu dépressive de la matinée, où on se dit, bon, on se suicide tout de suite, donc collectivement, hein, d'ailleurs. C'est vrai que Michel Foucault, on en fait quoi ça, c'est une vraie question aussi, donc... je finis pas mes phrases non plus, tu vois.
Ça laisse place, justement. Ben oui, parce que... Déjà, on est là devant vous, et puis en plus, on va aller travailler lundi, certainement. Enfin... Et c'est ça, mais ça, moi, ça me questionne au quotidien aussi, dans mon travail. Où, qu'est-ce qui fait que je suis là, que je suis animé, que je suis quand même passionné par ça, parfois très, très déprimé aussi, évidemment, mais... J'essaie de faire un peu dialoguer ça, mais quand tu parles d'espoir, c'est ça, ça me parle un bout, parce que je me dis que si je ne croyais pas en mon travail, à savoir que je ne croyais pas non plus peut-être un bout en moi, si on revient au souci de soi, mais que je ne croyais pas non plus en peut-être pas une volonté de changement chez l'autre, mais une prise de conscience ou une prise en considération du fait que à un moment donné, les choses peut-être justement ont bégayé, déraillé, qu'un coup est parti, je crois fondamentalement qu'on peut parfois mettre en perspective les choses, et particulièrement avec la violence, et puis que l'intérêt réside aussi dans l'espoir de mon activité professionnelle à parfois... montrer aux patients différentes choses, différents modèles de lecture, ce qui ne veut pas dire que c'est des modèles qui sont forcément justes et applicables et qu'il va falloir se comporter comme ça, mais que c'est aussi penser avec, parfois, penser avec ses patients, c'est quand même des moments assez géniaux, parce que ça se passe des fois. C'est pas qu'une histoire d'imposer, de dire que il faut y aller comme ça, c'est ça qui est juste, c'est ça qui est à propos actuellement. Souvent, c'est surprenant. Et c'est complètement fou de parler comme ça en disant « Mon Dieu, je suis surpris que les gens réfléchissent en face de moi ». Alors que quand on y revient, alors oui, là, il y a la question de mon intervention sur ce coup-là où je reviens, où je reprends ça. Mais parfois, il y a aussi le fait de se dire « Qu'est-ce qui a généré justement, avec le rapport de pouvoir, les rapports de pouvoir que ça convoque, quelque chose de l'ordre de la pensée de tout ça, de la pensée de la norme, de la pensée du dispositif familial, d'intervention, de, et puis que tout ça, parfois, dialogue quand même. Un patient qui arrive et puis qui dit « personne nous a aidés ». Personne nous a aidé jusque-là, alors qu'il y a eu multiple thérapies, multiple machin, personne nous a aidé. Et qu'on part de ça, qu'on part en fait d'une forme peut-être d'insuffisance ou alors d'une forme d'incompréhension en fait. Moi je suis frappé par les témoignages que j'ai, à quel point les gens se sentent pas compris. C'est quand même fort. Enfin...
Tu voudrais dire que malgré tout ce que décrit Foucault, il y a des moments dans la rencontre avec les patients, à partir de tu sais, par exemple, ils ont pas aidés, quand ils posent quelque chose de leur expérience, ils n'ont pas été aidés, ils n'ont pas été rejoints, je ne sais pas, il se passe quelque chose, tu sens bien quelque chose d'un réagencement de tout ça. Ça rebouge. Ça paraît... Pour le coup, ça donne de l'espoir, ça.
Oui, mais c'est, oui. Enfin, moi, j'y crois un bout à ça, et je pense que ça se passe. Malgré le fait que justement les problématiques de violence et de maltraitance sidèrent la pensée, hein. On est souvent un peu comme ça, en se disant c'est pas possible, alors que. Bref, pardon. Allez-y.
Non, mais moi, je voulais juste dire qu'en tant que professionnel ou patient, tout le monde est en quête de liberté, de vérité, de sortir de la souffrance. Puis je crois que ce qui est important, c'est notre attention, en fait, qui est vraiment la base. Et puis quand on dit perdre l'espoir, je crois que c'est normal qu'on ait cette intention d'avancer. Et puis c'est dans cette rencontre et dans ce travail ensemble que les choses se passent. Après tout le reste, voilà. Mais c'est pas oublier que c'est une quête de vérité, de liberté, que le patient a aussi, malgré tout son bagage. Mm-hmm. Ça peut s'appuyer. Mm-hmm. Alors ça, je trouve que ce Foucault, c'est un vrai bouddhiste. à la vision du soi.
Effectivement, peut-être que c'est aussi là que ça se joue. Une fois qu'on surprend qu'effectivement le sujet n'est qu'une écume qui surgit d'un empilement de discours, de dispositifs. Préexistant, voilà, et que là-dedans on a une toute petite marge. Notre dispositif, notre personne qui vient s'empiler à tout ce qui est préexistant au parcours d'un individu, ben on peut espérer que, voilà, parce qu'il y a une rencontre, parce que finalement ce discours-là, ces pratiques-là que nous on amène, vont pouvoir permettre un basculement de quelque chose aussi. Et puis même si c'est. Même si c'est violent, même si c'est ci, même si c'est ça, eh ben, on en revient au changement là. Il y a un changement qui s'opère dans la façon si on voit ça comme un ensemble de forces qui agissent sur le sujet. Il y a une réorganisation, et parce que justement la personne, elle va pouvoir, elle, tout en ayant toujours les mêmes choses qui lui poussent au cul, j'ai envie de dire, de pouvoir mieux y réfléchir, mieux l'organiser, mieux le penser. Et puis, si nous, on peut avoir été un peu le catalyseur de ça, moi, je prends. Je réfléchis à... dans mon boulot, si je devais définir un peu une partie de ce que je fais, on accompagne des jeunes et des familles dans un processus de deuil. De l'enfant parfait, de l'enfant idéal, d'un parcours scolaire ordinaire. Ce n'est pas des rêves incroyables, mais il y a une souffrance, on en revient aussi sous-jacent, il y a une volonté de d'être normal, de pouvoir faire un métier comme les autres, de pouvoir être... La honte de dire aux autres jeunes avec qui on traîne dans la rue qu'on est dans le spécialisé alors qu'ils sont dans un... On fait beaucoup avec ça. Et c'est violent de pouvoir faire ce deuil d'une vision, d'une sorte de normalité pour un jeune et une famille comme ça. Et d'accompagner ça vers une sorte de d'autre normalité qui soit des dispositifs existants, ben, comme on dit, spécialisés, des ateliers protégés, des choses comme ça, qui puissent, et parce qu'on le pense, et parce qu'on estime que c'est potentiellement une bonne chose, permettre à une personne de subsister. Et puis que là-dedans, une fois que ces bases-là elles seront posées, pouvoir un bout s'épanouir, un bout aller chercher un peu de liberté et quelque chose. Mais on est sans cesse confronté à des allers-retours. Je, pendant la pause, je parlais avec vous du doute. Le doute qui nous étreint, je pense, tous, à des moments, particulièrement, c'est quand tous mes collègues commencent à être d'accord sur quelque chose. En général, c'est le moment où je commence à me dire qu'il y a quelque chose qui pue. Quand on est tous d'accord pour dire qu'un tel il est comme ça ou une famille elle est comme ça, en général, je commence à me dire là il y a quelque chose qui joue pas, et parfois ça me force moi-même à défendre une position que j'estime pas forcément être celle avec laquelle je suis d'accord, mais juste pour nourrir le doute, pour nourrir aussi. Attendez, mais là, ok, on a observé un certain nombre de choses, mais on n'est pas non plus à la place des gens, et on n'est pas non plus ci ou ça. On peut pas comme ça avoir un verdict aussi, un diagnostic aussi. Aussi surplombant, aussi plombant et définitif sur quelqu'un, même si c'est pas vrai, même si c'est juste pour entretenir la pluralité des regards. Et je voyais ça, voilà, c'est pas plus tard qu'hier. Je vais essayer de pas tenir trop longtemps le micro non plus. Mais un jeune, 18 ans, cognitivement, il manque un petit peu de lumière à certains étages. Garçon adorable, hein, de grand. Mais qui vit avec sa sœur et sa maman, et une mère qu'on pourrait juger assez protectrice, assez couvante. Et ce jeune, donc 18 ans, un projet d'atelier protégé, Donc il va gagner en autonomie, il va gagner de l'argent. Puis sa maman, elle n'a pas beaucoup d'argent, elle est elle-même à l'aide sociale. La crainte de l'équipe, c'était que cette mère s'accapare l'argent de son fils. Mes collègues parlaient tous d'autonomie, d'inciter ce jeune qui exprime parfois, comme beaucoup de jeunes de cet âge, le souhait un peu de prendre de le large par rapport à cette mère. Et puis donc mes collègues étaient vraiment dans ce truc de comment est-ce qu'on peut empêcher cette mère de s'accaparer l'argent de son fils. Quelque part, quand je convoque mes valeurs et mes machins, je me dis oui, effectivement, l'autonomie, je peux visualiser une vie relativement autonome pour ce jeune dans quelques temps. Mais toutefois, qu'est-ce qui m'autorise, moi, en tant que professionnel, à discréditer cette mère comme gestionnaire de la vie de son fils? Jusqu'à présent, il a toujours été bien habillé, il est dents propres, la truffe humide, ça se passe plutôt pas mal. Est-ce qu'on a cette légitimité, par souci d'autonomie pour ce jeune, de se dire eh ben, on va faire un signalement pour une curatelle et aller un peu couper l'herbe sous le pied de cette mère? J'en sais rien, finalement. Peut-être que oui, peut-être que c'est néfaste pour ce jeune si cette mère reste trop dans sa vie, peut-être. Mais il n'y a pas assez d'éléments, je me dis, pour pouvoir hurler avec les loups et me dire « Ah non, vraiment, cette mère, elle est vraiment vilaine. » Et puis, il faut absolument que ce jeune puisse gérer son argent comme il l'entend. Donc voilà, petite...
On va rester là-dessus.
Ouais.
C'est une question très ouverte, bien illustrée. Donc merci Simon Lépine, merci Bastien Dervé, merci aussi à Clive Stavadzi qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, on le regrette, qui a participé de manière très féconde avec vous à la préparation de cette matinée. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous invite à revenir cet après-midi à 13h30. Nous comptons sur vous pour un deuxième volet sur la question de Foucault et rapport de pouvoir dans le travail social.